Ce fut longtemps une simple légende urbaine. On ne pouvait pas croire que quelqu'un d'aussi célèbre que Stéphane Bern, en apparence aussi consciencieux, puisse se permettre de tricher dans un quiz de culture générale en consultant Internet alors qu'il était en duplex de chez lui durant un confinement. Hélas, Stéphane, n'essaie pas de masquer avec des bruits de bouche ce que je raconte. Hélas, la vérité a éclaté hier. Stéphane, au détour d'une réflexion sur Clémentine, qui justement était exceptionnellement chez elle, s'est trahi.
C'est injuste parce que maintenant, chez elle, elle va pouvoir utiliser Internet, Clémentine, comme je l'ai fait pendant...
Je ne veux plus jamais voir ce type de comportement. Jouons dignement à Bern Kobiela. S'il vous plaît, nos auditeurs méritent mieux.
Déjà un quiz un peu plus historique.
Mais vous allez voir, aujourd'hui, vous allez gâter.
Et ensuite, peut-être, de votre part, une modération un peu plus respectueuse des règles.
Vous n'allez pas être déçus. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Question égyptologie.
C'est votre point fort. Elles sont toujours pour
c'est
lui, là.
Je déteste ça. Ouais.
Quand, en 1976, la momie de Ramsès II est venue à Paris pour être restaurée, le gouvernement égyptien a dû lui faire un passeport, car la loi française exigeait à l'époque que toute personne, vivante ou morte, devait voler avec un passeport valide. Vrai ou faux ?
C'est vrai, et je peux vous dire même qu'à son arrivée, il a eu le droit aux honneurs militaires rendus à un chef d'État. Parce que la République française a considéré que Ramsès II était un chef d'État, et donc il y a eu la garde républicaine qui l'attendait au pied de l'avion.
Et je me demande s'il n'était pas indiqué pharaon à profession,
pharaon.
Chef d'État.
C'est une réponse qui a fusé, avec suivi d'un raisonnement implacable, d'un complément d'information. Mais est-ce la bonne réponse ?
Vous avez perdu.
Et oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est un très joli fake. Si vous tapez sur Internet passeport et Ramsès II, vous allez tomber sur un passeport avec la photo du pharaon. Mais c'est totalement bidon. La preuve, c'est un passeport biométrique. Ça n'existait pas en 1974, Stéphane. C'est une légende urbaine, cette histoire de passeport du pharaon.
Mais on nous a toujours dit
rien
ça.
Rien ne prouve. Mais c'est parce que c'est une jolie histoire, si vous voulez.
Oui.
Mais voilà.
En tout cas, les honneurs de chef d'État, c'est vrai.
Non, ça, c'était vrai. Mais vous essayez de grappiller un demi-point ?
Oui.
Oui, raté.
Ça va peut-être vous servir tout à l'heure si vous voulez faire la cinquième question.
Alors à ce moment-là, effectivement, si j'en ai besoin pour ma comptabilité personnelle, vous aurez votre petit point. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Parce que la tortue a le pied sûr, est-ce une raison pour couper les ailes de l'aigle ? C'est une citation d'Edgar Allan Poe, célèbre dramaturge et poète américain du début du 19e. À 27 ans, il a entrepris des démarches administratives dans l'État de Virginie pour faire un mariage posthume. Vrai ou faux ?
Je vais répondre vrai parce que je ne connaissant pas cette histoire, je ne vois pas l'intérêt de poser la question si elle est fausse.
Voilà un excellent raisonnement, mais un excellent raisonnement aboutit-il forcément à une bonne réponse ?
Vous avez perdu.
Non, quand c'est Sébastien Bordenave qui prépare des questions qui n'ont aucun sens. Il y avait un piège, ou en tout cas, c'était une question tournée bizarrement. À 27 ans, Edgar Allan Poe n'a pas entrepris de démarche administrative pour faire un mariage posthume. En revanche, à 27 ans, il a épousé sa cousine qui en avait 13. Il était alcoolique et dépressif. Elle va mourir de tuberculose à 24 ans. Mais c'était vraiment un poète maudit. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi cette question existait.
Je suis contente d'être venue.
Vous êtes contente d'être venue. Pour l'instant, vous êtes à égalité dans les mauvaises réponses. Zéro partout. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Alors là, une question taillée pour vous. 1825, année que vous avez bien connue, l'année de votre baccalauréat. Le roi Charles X accepte que Haïti soit définitivement indépendante. Il ne demande qu'une condition, qu'une douzaine de villes portent le nom de membres de sa famille. Vrai ou faux ? Là, vous réfléchissez aux villes haïtiennes.
Ça me paraît curieux.
Ça paraît bizarre, parce que Haïti, d'abord, c'est partagé en deux. Hein. Vous savez, il y a Saint-Domingue.
Mais en plus, c'est ce qu'est Haïti, Toussaint l'ouverture, c'est sous l'Empire. Et l'indépendance d'Haïti, c'est après la mort de Toussaint l'ouverture.
C'est sous Charles X. C'est sous Charles X, mais je vois
Est-ce que c'est pas 1823
Port-au-Prince, c'est pas vraiment un nom de famille.
Port-au-Prince, Charles. Il n'y a pas une Charleville.
Non, il n'y a pas tellement de villes qui portent à Haïti le nom de.
Mais qu'on en ait fait la condition de l'indépendance, moi, ça me paraît charrier.
Non, ça me paraît bizarre.
Il répond non.
Vous avez gagné.
Et vous avez raison, c'est faux. Il va plutôt demander 150 millions de francs or, soit 15% du budget annuel de la France. Il faudra donc acquitter ce que les historiens ont appelé la double dette de l'indépendance, à savoir l'indemnité en elle-même et les intérêts des emprunts. L'île terminera de payer l'intégralité au milieu du XXe siècle. C'est aujourd'hui un des plus pauvres au monde et c'est presque aussi triste que l'histoire d'Edgar Allan Poe. C'est vraiment très triste ce quiz aujourd'hui. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. J'espère que la prochaine question sera plus rigoureuse. Essayez de mettre votre autorité pour changer les questions. Oui, je vais essayer. Question numéro 4, je vais peut-être même inventer une autre réponse à la question 4. Quatrième fils de Guillaume le Conquérant, Henri Ier, roi d'Angleterre, est couronné en l'abbaye de Westminster le 5
août 1100.
C'est pas la question, c'était une question que j'ai rajoutée. Il va régner plus de 35 ans et parmi ses descendants, il y a Clint Eastwood. Vrai ou faux?
Évidemment.
Évidemment. Clint Eastwood, c'est bien ça, oui. Que Clint Eastwood descendrait donc, il aurait de très très lointaines origines françaises finalement par Guillaume le Conquérant. Oh là là, en même temps, lui, il était quoi, Clint Eastwood? Il était charpentier sur des...
Oui,
des...
mais tout le monde descend, de toute façon, à un moment ou à un autre, on descend...
Bah,
de...
vous descendez bien de Robespierre. Alors.
Oui, on peut tous descendre. Oui, effectivement,
c'est vrai,
pourquoi
ça,
pas, mais enfin, il descendrait d'un fils de Guillaume le Conquérant, comme l'ensemble des Européens.
Vous descendez de Charlemagne, j'ai vérifié.
Oui, c'est sûr. Mais là, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, cette histoire, quand même. Ou peut-être...
Moi, je dirais oui.
Clint Eastwood descendant d'un fils de... Moi, je dis non.
Clint Eastwood est-il le fils, l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils de Guillaume le Conquérant? Je vous repose la question une autre fois.
Il veut me la poser. Bon, il me repose la question parce qu'il veut qu'on fasse la question 5.
Loin de moi cette idée.
Je réponds oui, bien sûr.
Vous répondez oui. Et c'est une bonne réponse. Oh oui. C'est une égalité. C'est une égalité, Stéphane, c'est dommage. Ça s'est joué à peu de choses.
Les gens ont compris que ça ne
se fout. Les gens savent que ma neutralité, elle ne peut être mise en doute.
Oui, c'était vrai. On sait où ça mène.
Oui, parfois on a été très très neutre. Réponse, c'est vrai, il n'est pas le seul, Clint Eastwood, à descendre de Guillaume le Conquérant. Ah, oui. Il y a aussi Sigourney Weaver et Bill Gates, figurez-vous. Question numéro 5, donc, pour vous départager, puisque vous êtes à égalité. Alors, c'est la question de rapidité. Attention, on attend bien que j'ai fini les propositions. On doit à Phalaris la prospérité d'Acragas, une ville de Sicile, en moins 550 avant Jésus-Christ. Ça, vous le saviez. Mais...
Qui sont ça?
Mais Phalaris...
Jusque-là, nous aurons suivi.
Mais Phalaris était un tyran particulièrement cruel. Son joujou préféré, Stéphane, c'est pour vous, un taureau fait de bronze et de laiton, suffisamment grand pour y mettre un supplicié. Puis, on allumait un feu sous le taureau. Sur qui Phalaris a testé en premier son objet de torture diabolique? 3 propositions. Sa femme, sur le forgeron qui avait fait le taureau, ou sur l'esclave qui lui servait un verre de vin au moment où on lui a apporté
le forgeron.
Le taureau.
Le forgeron.
Oh, l'esclave. Ou sa femme, c'est plus drôle. Sur sa femme.
Eh oui, c'est plus drôle. Hélas, Phalaris n'était pas un comique. C'est Stéphane qui remporte le quiz. Effectivement, il l'a testé sur celui qui a construit ce taureau maléfique. Petit détail, quand la personne torturée commençait à hurler dans le taureau, de l'extérieur, un son sortait de la statue. Cela donnait l'illusion que le taureau beuglait. Et plutôt cool, Phalaris a sorti l'inventeur du taureau avant sa mort et l'a fait jeter au fond d'un ravin. Comme quoi, il avait quand même un cœur, ce Phalaris. C'est une belle histoire.
Magnifique.
Vous connaissiez
Non, je ne connaissais pas l'histoire de Phalaris. Et bien maintenant, je vais resservir.
Qui êtes fan des supplices.
Oui, j'adore ça.
Le coup du taureau, vous connaissiez?
Non, je connaissais le coup du taureau. Mais...
Alors attendez, c'est un taureau en bronze, donc il fondait sous l'effet des flammes.
Non, il ne fondait pas, au contraire.
Il rougissait.
Imaginez, on allume un feu sous quelque chose qui est comme dans une cocotte minute.
Oui.
Voilà. C'est un,
c'est un peu comme Yvan le Terrible.
On le mettait dans le taureau ou sur le taureau?
Non, dans le taureau, puisque.
Il y avait,
et du coup, de la bouche du taureau, le seul trouillet, on entendait les cris.
Ça devait être super.
Ça devait être un très beau spectacle familial.
On sait s'il y a eu beaucoup de monde qui.
Mon enquête ne va pas si loin, Stéphane.
Ah, c'est dommage.
Non, elle s'arrête là. Elle s'arrête là, aux limites du quiz. Que vous remportez. Bravo, Stéphane Bern.